L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 avril et je suis comme tous les jours en compagnie de Claire. Salut Claire.
Eh oui, salut Marie, salut tout le monde en direct à Laval, toujours où il fait très très beau, sûrement plus beau que Château-Gontier, même si Marie ne veut pas l'entendre, mais oui, c'est Laval qui gagne ce matin.
Alors, une question, quel critère objectif pour juger s'il fait beau ou pas ?
Aucun, juste mon ressenti.
En étant évidemment pas omnisciente, donc je pense que c'est un jugement complètement subjectif, en tout cas, tout ça pour dire qu'ici aussi, on a du soleil. Donc, en ce mercredi midi du 14 avril, on va parler justement, peut-être que c'est l'occasion de sortir votre vélo pour aller vous promener. Alors, pas très très loin, puisqu'on ne peut pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, ça fait partie des questions qui sont dans cette enquête à propos du vélo et des mobilités douces. Une enquête qui est proposée donc par les élus de Château-Gontier-sur-Mayenne pour savoir quel usage est-ce que vous faites du vélo, à quelle fréquence et quel point éventuellement dans la ville et dans les aménagements il y aurait à améliorer. On va en parler tout à l'heure. Ce mercredi, c'est aussi le coup d'envoi du Festival d'art numérique Recto Verso, qui se déroulera forcément, Covid oblige, 100% en ligne, avec un programme malgré tout fourni, vous l'entendrez. Et puis en fin d'émission, vous pourrez aussi entendre, comme chaque mercredi tous les 15 jours, la chronique du FC Que Choisir, avec aujourd'hui un petit florilège des principales arnaques, des arnaques malheureusement récurrentes, pour éviter peut-être vous aussi de vous faire avoir, ou en tout cas de savoir quelles attitudes adopter si jamais vous vous retrouvez dans cette situation.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, les chiffres de la Covid-19 en léger recul dans la région.
Alors en très très léger, en Mayenne, les chiffres délivrés par l'Agence Régionale de Santé montrent une légère diminution, on l'a dit. Le taux d'incidence s'établit à 199,1 cas pour 100 000 habitants, 7,4% des tests sont positifs et 55 personnes sont hospitalisées, dont 6 en réanimation.
Les aides à domicile manifestent demain matin à Évron.
À l'appel du syndicat FO ADMR de la Mayenne, un débrayage est organisé ce jeudi à 11h devant l'ADMR d'Évron. Le syndicat réclame une hausse des salaires pour les aides à domicile, la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail, la prise en charge intégrale du coût du transport par l'employeur ou encore de nouvelles embauches pour pallier les besoins.
La députée mayennaise Géraldine Bagnier pointe le problème du gel pour les agriculteurs.
Lors d'une séance à l'Assemblée nationale hier, elle a demandé au gouvernement de revenir sur les dispositifs d'indemnisation qui vont être mis en place. Le calendrier envisageable depuis l'état des lieux jusqu'au versement compensatoire. Réponse d'Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Nous allons chercher toutes les dispositions permettant de couvrir le risque subi par les producteurs.
5 voitures incendiées quartier du Pavement à Laval.
Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin. Des palettes de bois ont été brûlées à proximité de 5 voitures et d'un scooter. Un incendie volontaire selon les policiers, mais dont on ne connaît pas encore les motivations. Une enquête a été ouverte.
L'UCO propose de tester ses masters à distance.
À partir de demain jeudi et jusqu'au 7 mai, l'Université catholique de l'Ouest de Laval permettra aux étudiants de découvrir à distance une vingtaine de masters proposés dans ses établissements en communication, en traduction, langue, relations internationales et stratégie politique ou encore en gestion de projets culturels. Inscription et programme à retrouver sur uco.fr.
Plusieurs mesures pour la réduction des déchets.
Dans le cadre de son schéma directeur de la gestion des déchets 2021-2026, Laval Agglo proposera dès la rentrée 2021 la mise à disposition gratuite d'un millier de composteurs pour les particuliers. Un budget de 50 000 euros a été débloqué pour lancer des ateliers zéro déchet et les déchetteries seront modernisées. Certaines communes pilotes vont, elles, expérimenter le broyage de déchets verts. En parallèle, Laval Agglo a aussi acté la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à cause de la baisse des recettes liées au tri sélectif. Pour les communes de l'ex-Laval Agglo, le taux de cette taxe s'établira à 7,8% contre 7,18% en 2020, ce qui correspond à une augmentation moyenne de 83 centimes par mois pour les contribuables.
Le trimaran actuel mis à l'eau.
Le groupe mayennais actuel continue de soutenir la voile et hier après-midi, l'ancien trimaran massif de François Gabart porte désormais donc ce nom d'actuel, dont le voilier a été mis à l'eau à Lorient hier après-midi, je vous le disais, sous les yeux de son skipper Yves Leblévesque, qui s'apprête à faire la transat Jacques Vabre. Ce sera à partir de novembre prochain.
À Château-Gontier, comment utilisez-vous votre vélo ?
Les élus municipaux lancent ce mercredi une grande enquête sur les pratiques et usages de la bicyclette à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une dizaine de questions qui permettront d'avoir un retour des habitants et d'adapter ensuite le plan vélo proposé à la rentrée prochaine, comme l'explique Perrine Béguin, conseillère déléguée en charge notamment de ce plan vélo.
L'idée, effectivement, est de connaître donc les pratiques et usages du vélo à Château-Gontier-sur-Mayenne, d'avoir le ressenti des habitants et non-habitants aussi, ça c'est important, sur la voirie, mais les différents aménagements urbains et services associés au vélo. Il y a effectivement une forme papier qui sera diffusée dans les boîtes aux lettres et la forme digitale, elle, va être disponible de suite, c'est-à-dire à partir du mercredi 14 avril. Vous pourrez y accéder par, donc, en scannant un flash code que vous trouverez sur les panneaux d'affichage de la ville, mais aussi sur des affiches mises à disposition auprès des commerces dont vous retrouverez la liste sur notre site internet. Des premières questions pour savoir si déjà effectivement les gens sont équipés, pourquoi ils utilisent aujourd'hui le vélo et à quelle fréquence, s'ils se sentent ou pas à l'aise à vélo aujourd'hui, donc savoir si effectivement ils auraient peut-être besoin d'une formation, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui de la remise en selle par exemple. Et puis donc des questions plus spécifiques effectivement sur les aménagements à Château-Gontier-sur-Mayenne pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins et leurs attentes en termes d'aménagement. Et puis nous évoquer aussi des points par exemple difficiles ou voire dangereux qu'ils auraient pu voir sur la ville pour qu'on puisse orienter effectivement nos actions du plan vélo en y mettant peut-être effectivement d'autres priorités qui ressortiraient sur ce questionnaire. On va l'analyser, on espère surtout qu'il y ait beaucoup de gens qui répondent à ce questionnaire. C'est important pour nous aujourd'hui pour effectivement qu'on puisse vraiment orienter nos actions du plan vélo. On verra ce qu'il en ressort, mais voilà, effectivement, c'est de s'appuyer dessus pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants. Que ce soit au niveau national ou même effectivement sur Château-Gontier-sur-Mayenne, il y a un vrai engouement aujourd'hui pour le vélo, pour la pratique du vélo. Une pratique avec des usagers complètement différents. Hein. On est sur de la pratique à la fois de loisirs, en famille, mais aussi des usagers du quotidien. Et effectivement, il y a un vrai engouement, on le voit bien. Et là, les beaux jours vont arriver et on va voir qu'il y a de plus en plus de vélos sur les routes, effectivement.
Objectif de la municipalité, aménager 20 km de voies douces d'ici la fin du mandat. Pour répondre à cette enquête vélo, vous avez jusqu'au 29 mai en ligne ou donc par papier, avec des urnes disponibles à l'hôtel de ville et dans les mairies déléguées. À noter qu'un jeu concours est aussi mis en place avec à la clé 6 mois de location d'un vélo à assistance électrique. On va détailler donc ce programme du festival Recto Verso qui commence cet après-midi. Ce sera juste après The Fratellis avec Six Days of June.
We'll be right back.
Six Days in June, c'était de Fratellis dans l'agité du local. Et puis on va parler, comme promis, du festival Recto Verso qui commence cet après-midi avec des concerts en réalité virtuelle, une immersion dans un monde en 3D ou une fresque collaborative. Ça fait partie des œuvres d'art qui seront visibles justement lors de ce festival qui a lieu en ligne à partir de cet après-midi et jusqu'à vendredi soir. Pour cette 4e édition du Festival d'art numérique, il est donc 100% virtuel pour respecter les conditions sanitaires. On écoute les explications de la créatrice et directrice du festival.
Je suis Judith Guez, je suis artiste-chercheur à la base dans le milieu de la réalité virtuelle et de l'art numérique. Donc je crée des œuvres d'art numérique et depuis donc 2018, j'ai créé avec Laval Virtuel le festival Recto Verso, qui est un festival d'art numérique qui se passe en parallèle du salon Laval Virtuel.
Quel a été le déclic justement, ou quelle idée, à quel moment, comment s'est fait vraiment le projet en 2018?
Mais bien justement, en fait, c'était lié à tout ce travail de thèse, de recherche que je faisais autour de la réalité virtuelle et de voir comment ces technologies peuvent être vraiment des médiums artistiques. Vraiment un peu comme de la peinture. Je voyais ça comme d'essayer de creuser, de trouver des effets avec ces médiums numériques et de voir comment on pouvait créer des choses et comment les artistes s'intéressaient à ça. Et moi, en tant qu'artiste, et je suis aussi ingénieure d'ailleurs, j'ai fait des études de robotique, je voulais vraiment creuser ça dans mes recherches personnelles au départ et mes créations personnelles. Et puis petit à petit, je connaissais très très bien Laval Virtuel puisque j'y allais depuis, ça fait peut-être plus de 10 ans que je vais là-bas, aussi bien en tant qu'étudiante, avec les concours étudiants, j'y allais tout le temps, comme c'était toute la communauté comme ça de l'innovation numérique qui me plaisait beaucoup, et j'y allais tous les ans. Et donc c'est petit à petit, après mes recherches, etc., en discutant avec Laurent Chrétien, donc le directeur de Laval Virtuel, que j'avais vraiment cette envie de créer un lieu, déjà de d'amener l'art beaucoup plus visible à Laval Virtuel et de créer vraiment ce lieu en parallèle du salon, mais qui montre aussi tout ce qu'on peut faire avec le numérique et comment les artistes explorent cela en fait et expérimentent avec.
Oui, puisque ce festival, donc Recto Verso, s'est vraiment créé en parallèle du salon Laval Virtuel, qui exceptionnellement cette année, du coup, a été décalé début juillet. Mais là, le festival Recto Verso, lui, maintient un petit peu ses dates initiales, on va dire, puisque ça commence aujourd'hui et ça se finit vendredi soir. Justement, comment est-ce que vous vous êtes adapté à ces conditions si particulières au niveau sanitaire en ce moment, puisque normalement, c'est vraiment un festival qui s'installe aussi dans la ville de Laval en tant que tel?
Exactement. Donc normalement, on a une thématique en plus qui fait qu'on fait un grand appel à projets. On a beaucoup d'artistes qui viennent et généralement, on peut exposer une 60aine d'œuvres dans toute la ville de Laval. Donc on a une galerie principale où on a 15 œuvres exposées et dans toute la ville de Laval, que ça soit dans les lieux de patrimoine, dans les musées, musée d'art naïf et des arts singuliers par exemple, on a des œuvres partout. Voilà. Et là, effectivement, donc c'est arrivé, les adaptations ont commencé l'année dernière. Ou un mois avant l'événement, tout était prêt et on s'est complètement réadapté. Donc le Laval Virtuel qui a du coup monté ce Laval Virtual World, qui est une sorte d'espace virtuel, une île virtuelle où on crée un petit avatar et on peut se retrouver dans des lieux comme des lieux de conférences, des lieux de partage, de rencontres. Ça c'était l'année dernière et l'année dernière aussi, du coup, nous on avait créé une galerie virtuelle très rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a vu aussi, là, il y a à peine 3 mois, qu'on devait se réadapter face à tout ce qui se passait. Donc, le Laval virtuel, effectivement, sera en physique en juillet. Mais pour le Recto Verso, on a voulu garder ce rendez-vous, justement, d'avril, puisqu'il y avait aussi tout un lien pédagogique aussi avec les écoles. Donc, le mois d'avril était un mois déjà bien identifié pour ces projets-là. Et puis, on voulait avoir un moment pour réunir aussi la communauté en avril et surtout la communauté culturelle qui est un peu en difficulté en ce moment. Et donc, l'idée a été de questionner la période actuelle et de se dire, l'année dernière, on a dû s'adapter. Là, on va encore... Alors, questionnons-le. En plus, avec vraiment des questions de recherche aussi, observons ce qui se passe. Et donc, on a fait un appel à projet pas habituel, parce que normalement, on a des œuvres physiques. Mais là, on s'est dit, on va faire un appel à projet d'œuvres qui se voient qu'en ligne. Et donc du coup on a lancé cet appel à projet sur l'idée des expositions virtuelles et de l'art en ligne de l'art qui peut vraiment se voir qu'avec un clic sur chez soi, en fait. Et donc là, sur notre site internet, donc du Recto Verso de Laval Virtual, on a sélectionné une trentaine d'œuvres. Donc, on a une sorte de galerie virtuelle sur site internet où on peut aller vraiment expérimenter ces œuvres. Ça, c'est le premier point donc, qu'on a lancé et on a fait la sélection il n'y a pas longtemps. Et là, pour cette édition, donc qui commence effectivement aujourd'hui, là, on est en plein dedans. Les portes s'ouvrent du monde virtuel à 13h. L'inscription est gratuite. Donc, quand on va sur le site internet donc, du Recto Verso Laval Virtual, on a juste à s'inscrire, à cliquer sur le bouton de s'inscrire. On télécharge le monde virtuel et on se retrouve après à créer son petit avatar et aller dans ce monde virtuel où on est guidé pour aller à des conférences. Donc, on a 3 jours de conférences et qui vont questionner justement l'art numérique en ce moment, comment les musées s'adaptent. On a par exemple le Grand Palais, le réseau des musées nationaux qui vont nous expliquer comment ils se sont adaptés cette année, comment des commissaires d'exposition s'adaptent, comment d'autres font aussi des choses que dans des mondes virtuels. Il y a des commissaires qui se sont mis à faire des mondes virtuels et à exposer des œuvres que là-dedans, en fait. On veut exposer ça avec aussi le dernier jour, le 16 avril, un volet assez recherche aussi, de voir aussi au niveau pédagogique comment les professeurs, par exemple, se sont adaptés aussi à tout ça, comment les artistes ont eu des projets comme ça. Donc on va avoir 3 jours comme ça et l'idée, c'était de se rassembler, d'observer, de questionner ce qui se passe et aussi cette idée de fête artistique qu'on voulait aussi, de rencontre puisqu'on en a besoin. Donc on aura dans le monde virtuel des performances, des soirées festives et des rencontres avec plusieurs exposants, artistes, etc.
Donc l'idée, c'était forcément de maintenir tout l'état d'esprit, j'imagine, du festival, mais à distance sur le Laval Virtual World. Donc oui, c'est ce que vous disiez, il y a aussi bien des concerts le soir, des soirées un peu festives, etc. Et puis, comme vous le disiez là aussi, toutes les conférences sont forcément autour de ce qui a chamboulé, on va dire, depuis un an, le monde artistique. Vraiment, le fait que les musées ne sont plus accessibles, donc beaucoup de choses en ligne. Est-ce que l'idée, c'est aussi de prendre des exemples mayennais ou français dans les interventions ?
On a, en fait, c'est plutôt international, en fait, là, complètement international, alors que ça soit français ou autre. Dans les artistes, au Recto Verso, souvent, effectivement, il y a des artistes mayennais qui viennent. On fait vraiment le lien, en plus, avec la ville de Laval, les lieux, etc. Là, à distance, on a vraiment fait un appel très international sur l'art en ligne. Du coup, on a eu vraiment des propositions de tous les pays. Et d'autant plus qu'on a eu aussi un partenariat événementiel qui s'est fait avec un événement qui se passait au même moment en Corée, un symposium qui s'appelle Making Limonade, qui se passe au même moment, qui propose des performances en ligne et tout. Donc, on propose aussi ce programme-là. Donc c'est ce côté que ça soit en ligne fait qu'en fait, tout le monde se connecte du pays où il est et il y aura vraiment cette effervescence de partout. Et puis, on a un espace des écoles, universités, plutôt en France aussi, où là, il y aura aussi des espaces même en français, de séminaires, de plein de choses qui se passent aussi.
L'idée, c'est de s'adresser à qui, justement, à des gens qui ont quand même un certain œil déjà artistique, que ce soit peut-être des étudiants, des professionnels du monde de l'art, ou peut-être même plus large, et d'aller toucher un public qui ne s'y connaît pas forcément, en tout cas à la base.
Oui, mais généralement, Recto Verso, c'est ça. C'est vraiment pour tout public. Et nos expositions suivent aussi ce qui se passe à Laval Virtuel. Il y avait les journées professionnelles et les journées grand public le week-end. Et avec les expositions, c'était l'idée de faire découvrir justement à tout un public qu'en fait, avec le numérique, avec ces choses qu'on voit, le téléphone, les cases de réalité virtuelle, on peut ouvrir des espaces de création artistique. Donc là, en virtuel, les conférences vont avoir aussi bien des réflexions prospectives, de recherche, de ça, mais on aura aussi des choses assez accessibles. On a par exemple le Château de Versailles, il va montrer comment il fait, ils se sont adaptés ou d'autres, et ça qui sont assez accessibles aussi. Et c'est l'idée. Et on a aussi du coup toutes ces performances en ligne, tous ces lieux de découverte dans les espaces d'exposition, qui pour nous c'est vraiment le mélange et le partage en fait de tous les publics, dans que chacun s'y retrouve, que ça soit aussi bien effectivement le côté professionnel d'art, et nous on va être là aussi sur des débats peut-être un peu plus poussés dans les moments de débat, dans les réflexions de la conférence principale, puisqu'on veut, ce qu'on a envie aussi c'est d'en faire après une sorte de restitution de cette partie-là. de voir ce qui s'est passé et de comprendre, est-ce que ça nous fasse un peu comprendre la période qu'on vit aussi. Donc il y aura tout ça aussi, mais ce côté fête artistique, de découverte, déjà d'aller dans le monde virtuel et de voir les espaces d'expo, d'aller voir la partie où il y a les étudiants, etc., ça est vraiment accessible.
C'est vrai qu'avec un thème comme ça, ou vraiment sur le numérique à 100%, forcément, on pourrait se dire que forcément, c'est par les contraintes sanitaires, donc ça a été imposé, mais c'est aussi l'occasion, j'imagine, de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire toutes les belles initiatives qui ont été prises et les projets qui sont nés dans ces conditions si particulières, alors qu'il y a un an ou deux ans, ça aurait été peut-être même impossible à imaginer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises dans ce programme ou parmi les intervenants qui y sont sélectionnés ?
Oui. Alors moi, c'est vrai que ça reliait mes recherches de doctorat, de thèse que j'ai faites, puisque j'analysais vraiment cette frontière entre le réel et le virtuel. Comment on passe du réel au virtuel pour emporter le spectateur. Alors je parlais même d'émerveillement, mais dans des mondes, etc. Et quand j'ai commencé à créer des expos réels, déjà rien que de concevoir l'espace d'exposition pour amener le public, créer déjà quelque chose. Et là, effectivement, toute cette période m'a un peu chamboulée et m'a re-questionnée aussi là-dessus, puisque finalement, là, on va dans un espace virtuel pour aller voir des œuvres virtuelles. Donc, ça change beaucoup de choses. Et si on observe, ce qui m'intéresse aussi, c'est de revenir à l'histoire de l'art, même avant le numérique. Il y a des artistes qui voulait déjà faire participer le spectateur, jouer avec des perceptions, des illusions, plein de choses. Et quand le numérique est arrivé, et même quand Internet, du coup, est arrivé, on avait pas mal d'artistes, le net art, ça s'appelle, qui déjà faisaient des œuvres d'art en ligne. Et pour eux, ce qui était important, c'était de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de lieu d'exposition. Je peux créer carrément mon espace d'exposition en ligne et le diffuser comme je veux. Et c'est ça qu'on observe. Donc, il y a tout un courant là-dessus, mais qui effectivement, là, cette année, revient en force avec tout, en plus, beaucoup d'adaptations, de musées virtuels, d'expositions virtuelles. Et ce qui m'a intéressé de voir, notamment avec l'appel à projet, de toutes les candidatures qu'on a eues sur cette idée qu'on a appelée même de l'émergence, de voir ce qui allait émerger de tout ça, c'est les catégories qu'on voyait. On voit les plateformes que les artistes utilisent et là, on remarque qu'il y a des plateformes virtuelles qui commencent à être assez faciles, que les artistes aiment bien utiliser pour adapter leur œuvre, etc. Donc, pour moi, en termes d'observation, c'est qu'après tout ce qu'on va faire là pendant ces 3 jours et ce qu'on aura observé, c'est de ressortir ces choses-là parce qu'il y a, à mon avis, quelque chose de vraiment intéressant là-dessus. Et puis, beaucoup d'artistes qui, en s'adaptant, trouvent aussi de nouveaux médiums et des nouveaux effets qui les intéressent. Donc, il y en a finalement qui vont peut-être aussi continuer à créer dans le virtuel, en ligne, même de manière collaborative. Il y a plusieurs choses qui ouvrent d'autres opportunités artistiques.
Donc là, forcément, le programme pendant ces 3 jours, c'est comme un programme de festival. Hein. Il y a des horaires bien précis, que ce soit pour les conférences ou pour d'autres événements. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse accéder aux œuvres un petit peu pendant les 3 jours ou même ensuite, ça va continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose à plus long terme qui va rester de ce festival ?
Oui, ben justement, en fait, la question aussi qui se pose des espaces d'exposition qui se font en ligne, c'est que finalement, ils peuvent ne pas avoir de fin, puisqu'ils sont en ligne sur des sites internet ou comme notre galerie virtuelle qu'on a fait en 2020, elle est toujours accessible sur le site internet de Recto Verso, on peut se balader dedans. Donc il y a cette temporalité qui reste et qu'on va garder. Donc sur le site internet de Recto Verso 2021, on a les artistes 2021 qui restent, donc on peut expérimenter même après ces 3 jours les œuvres et les vivre chez nous. Il suffit de cliquer sur l'œuvre et on vit, on a la description de l'œuvre et on peut l'expérimenter selon la plateforme que l'artiste a utilisée. Et après ces 3 jours, donc on laisse cette galerie ouverte. Et ce qui va se passer, c'est que pendant l'aval virtuel en juillet, on aimerait sélectionner quelques œuvres qui normalement sont que pour le virtuel et essayer même de les ramener dans une exposition réelle. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi de la suite de ce projet.
Donc là, en fait, ce serait dans l'autre sens finalement. On partirait du monde virtuel vers le réel, d'accord.
Voilà, c'est pour ça que la thématique est exposition virtuelle, exposition réelle. C'est-à-dire qu'on essaye d'inverser les choses. En ce moment, on voit beaucoup de tendances d'adapter une exposition qui est réelle ou un lieu réel et le transcrire en ligne, en virtuel. Et là, on a envie d'essayer le contraire. Donc, on va voir en juillet aussi, voilà, tout ce qui sera possible de faire dans les espaces réels, vu les conditions. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir comment ces œuvres peuvent peut-être aussi s'adapter, se transformer. Alors, ça pose plein de questions aussi sur le statut de l'œuvre, mais dans des espaces avec des cases de réalité virtuelle ou autres, dans le monde, dans l'exposition réelle.
Donc ça, ce sera à retrouver, en tout cas, on l'espère, début juillet. Et là, on va juste finir sur l'aspect pratique pour participer au festival. Là, ces 3 jours, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi soir, comment on fait ?
Alors, il faut donc aller sur le site internet de Recto Verso Laval Virtuel. Donc, il se trouve, on clique Recto Verso Laval Virtuel et on tombe sur le site internet. Et là, il y a juste un bouton d'inscription. Donc, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton, de s'inscrire, de remplir les données, de s'inscrire. Et ensuite, on reçoit un lien pour télécharger le Laval Virtual World, qui est notre plateforme, notre application. Une fois qu'on le télécharge, donc on double-clique comme une application, le Laval Virtual World s'ouvre et là on peut créer notre petit avatar comme on veut, on peut changer de vêtements comme on veut, virtuel, et on se retrouve ensuite dans le monde virtuel du Laval Virtual World, où là on est accueilli par les équipes pour nous dire aussi comment se passe le programme. Donc tout le programme est aussi visible sur notre site internet. On ouvre les portes donc aujourd'hui à 13h et notre discours d'ouverture de toutes les conférences commence à 16h aujourd'hui. On va avoir une performance aussi vers 18h aujourd'hui aussi. Et puis dès le 15 et le 16, les conférences commencent à 10h et ça dure jusqu'à 20h l'événement avec des conférences, des moments où on peut aller se balader dans les autres espaces.
500 personnes se sont déjà inscrites sur Laval Virtual World spécialement pour l'événement. Il devrait être donc bien plus nombreux à participer pendant ces 3 jours. Un moment de restitution du festival aura lieu pendant le Salon Laval Virtuel début juillet au musée École de la Périne à Laval donc. On revient d'ici quelques minutes avec, vous entendrez les témoignages de certaines arnaques délivrées par UFC Que Choisir, où ils ont fait appui évidemment cette association de consommateurs UFC Que Choisir, et on écoute tout de suite Let's Burn Again de Gush.
time to waste. Let's go again.
C'était Gush avec Let's Burn Again, évidemment dans l'agité du local. Et on va tout de suite écouter d'ici quelques secondes votre chronique conso avec Jean-Michel Guinaudot du FC Que Choisir en Mayenne. Et aujourd'hui, quelques anecdotes de consommateurs malheureux venus trouver l'association.
Auditeurs, consommateurs, bonjour. Le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe. À nouveau le confinement. On ne s'y habituera pas. Mais on apprend à vivre avec. Alors, je vais vous raconter quelques-unes des aventures, ou plutôt mes aventures, arrivées à nos concitoyens mayennais. À les raconter ainsi, on peut en rire, mais eux n'en ont pas ri, et le plus souvent, ils en ont été de leur poche. Alors, écoutez bien, un consommateur averti en vaut deux, dit-on. Je vous disais dans ma dernière chronique que l'achat d'une voiture d'occasion présentait un certain risque. Madame A l'a appris à ses dépens en allant chercher dans la région parisienne une voiture qui, sur l'annonce du Bon Coin, présentait toutes les garanties de sérieux. Grand garage avec un beau site internet, très grand choix, pris en relation avec le marché. Mais il a fallu moins de 2 mois pour que les premiers symptômes de défaillance du moteur apparaissent. Et malgré des passages au garage local, le moteur est à remplacer moins de 6 mois après. Notre lettre, pour faire valoir son droit à la garantie légale de conformité, nous est revenue avec la mention « refusée par le destinataire ». Autrement dit, le garage refuse tout arrangement. Et comme Madame A n'envisage pas une procédure judiciaire très aléatoire en raison des jurisprudences plutôt défavorables pour le consommateur dans ce genre de litige, la voiture va sans doute partir à la casse. Le prix du remplacement du moteur étant supérieur à la valeur de la voiture. 4 800 € se sont envolés. Prévoyant, M. et Mme V ont, en décembre 2019, retenu une belle villa pour juin 2020 en Espagne, en passant par la plateforme Abritel. Mais le Covid-19 est passé par là, et il n'y a plus de vol prévu pour cette destination à la date. Pensant bien faire, ils envoient un mail au propriétaire pour annuler la location. En prévenant assez tôt, pense-t-il, celui-ci pourra la relouer, ce qui facilitera le remboursement. Mais le propriétaire ne veut pas rembourser et propose une autre date, qui, évidemment, ne convient pas à M. et Mme V. Et c'est le moment qu'ils prennent conscience des conditions du contrat qu'ils ont signé. Le contrat est signé entre le propriétaire et le locataire, et Abritel n'est qu'un intermédiaire sans aucune responsabilité. Le contrat est clair, en cas d'annulation par le locataire, le propriétaire ne doit aucun remboursement des acomptes versés. De plus, cette villa espagnole est la propriété d'un Anglais, et une éventuelle action en justice devrait se faire selon les lois anglaises, ce qui n'est plus la loi européenne. Avant de signer un contrat, bien le lire et examiner les clauses qui devront être respectées. Monsieur et Madame P viennent d'acheter une maison récente. Ils aménagent dans la maison et demandent un abonnement téléphonique à Orange. Qui propose un abonnement fibre. Mais, surprise, la maison n'est pas reliée au réseau. Les anciens propriétaires, qui étaient des constructeurs, n'ont jamais sollicité le raccordement de la maison, n'utilisant sans doute que leur téléphone portable. La maison comporte pourtant des prises téléphoniques dans les pièces principales, mais ne sont pas opérationnelles. Le coût annoncé par Orange est de 5000 euros. Surpris, car en Mayenne, l'accès à la fibre est gratuit, seul restant éventuellement à la charge de l'usager l'installation intérieure. Alors, il se renseigne. Et de fait, cette installation, qui d'après Orange devrait coûter 5000 euros, est entièrement gratuite. Il est donc nécessaire de bien renseigner, avant l'achat d'une maison, sur les conditions existantes. Une petite dernière. Monsieur B est intéressé par le remplacement de sa chaudière fuel, âgée de plus de 15 ans, et sur laquelle son chauffagiste prévoit des frais d'entretien importants. Comme tout le monde, il a entendu parler des aides de l'État et clique sur une annonce alléchante. Rendez-vous est prêt, 4 jours plus tard, pour une étude. Évidemment, vous l'aurez compris, les techniciens en charge de l'étude sont avant tout des commerciaux qui font signer un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur et d'un panneau de thermodynamique pour près de 24 000 euros, assorti d'un prêt, ce qui monte la facture à près de 40 000 euros. Et 15 jours après, c'est-à-dire un jour après la fin du délai de rétractation, la société appelle M. B pour lui annoncer la pose du matériel dans les 2 jours. M. B n'étant pas disponible, le rendez-vous est reporté de 2 jours, ce qui tombe un samedi. Qu'importe, ils viennent poser la chaudière le samedi. Et donc, 19 jours après la signature du contrat, M. B se retrouve possesseur d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique. Record de vitesse battu. Aux dernières nouvelles, ça marche. Tant mieux pour M. B. La téléphonie, qu'elle soit mobile ou fixe, les achats sur Internet, nous apportent ainsi leur lot de mésaventures. Alors, n'oubliez pas, le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur le site mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. Et bonne semaine.
Merci beaucoup et évidemment la prochaine chronique ce sera mercredi dans 15 jours. C'est désormais l'heure de la rubrique Initiative de Claire et demain plusieurs rendez-vous en visioconférence. On commence avec Émilie Ranjou.
Et oui, la médiathèque de Château-Gontier vous propose une rentrée littéraire en visio avec la librairie Émilie Ranjou. Au programme discussion avec Christophe Aimé, notre chroniqueur, du lundi préféré, autour des dernières sorties littéraires. C'est demain, jeudi 15 avril, à partir de 17h30, en tapant sur Facebook « Rentrée littéraire Émilie Ranjou ».
J'aurais appris qu'il y ait des rentrées littéraires même en avril. Très bien. On continue nos rendez-vous en visio avec l'UDAF 53.
L'Union départementale des associations familiales vous propose un échange sur l'utilisation du numérique au sein de la famille. Ce sera animé par le service parentalité, défense du consommateur et le réseau Canopé autour de 4 grands axes. Le numérique pour s'informer, travailler et support d'apprentissage. Un outil pour gérer les démarches administratives. Le numérique pour rester en lien, communiquer et se divertir. Et enfin, une présentation du réseau des acteurs du numérique. C'est demain, à partir de 20h, le lien de connexion est à retrouver sur le site de l'UDAF 53, rubrique Actualité.
Merci beaucoup Claire, donc deux visios en tout cas, on vous propose demain, si ça vous a donné envie, pardon, décidément j'ai vraiment du mal, il y a des jours comme ça, aujourd'hui, la bouche ne veut pas suivre pour l'émission, mais c'est pas grave, on continue quand même, évidemment. Donc avec cette chronique initiative qui est donc terminée, mais si vous voulez toujours nous partager vos propres initiatives qu'on pourra donner demain, après-demain, quand on l'aura évidemment, vous pouvez appeler le répondeur au 09 70 40 59 40, passer aussi par les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Twitter, nom du compte L'Autre Radio, c'est très facile de nous joindre, n'hésitez pas en tout cas. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local de ce mercredi 14 avril. Merci Claire.
Merci Marie, merci tout le monde. Et je ne veux pas spoiler, mais je crois que demain, je suis à Château-Gontier. Voilà, voilà, à demain.
À demain avec du bon son, encore un petit peu meilleur que cette visio. Évidemment, une émission toute à 100% en direct de Château-Gontier demain. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Novorama. À 21h, il y aura Torrance Jazz Hour. Et nous, vous l'avez compris, on se retrouve demain en direct de Château-Gontier à 12h15. Comme d'habitude, très bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.